Pluriel gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Pluriel gay, la première de l'année. Et je profite donc pour adresser à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices, les meilleurs vœux de toute l'équipe pour une année 2018 pleinement réussie. Alors, l'émission que vous allez entendre ce soir n'est pas indirecte, mais elle a été réalisée le mois dernier au Centre LGBTI. C'était en effet le 9 décembre qu'a eu lieu, à Lyon, la présentation du livre « Les homophobes sont-ils des enculés ?» paru aux éditions Iconovox. Alors, cette journée a réuni un certain nombre d'auteurs qui ont participé à cet ouvrage collectif, ainsi que des dessinateurs. Puisque cet ouvrage est aussi un livre d'illustration de dessin humoristique dont le but est de déconstruire les préjugés homophobes, donc sur un mode plutôt humoristique, on l'aura compris. Dans le cadre de cette journée de présentation et de dédicace, des tables rondes avaient été organisées au cours desquelles le public présent, tout comme les internautes, pouvaient, s'ils le souhaitaient, intervenir et interroger les intervenants donc de ces tables rondes, tandis que Nawa, qui est la combe des dessinateurs donc qui ont participé au livre qui était présent au centre LGBTI, illustrait un peu le déroulement des débats par leurs dessins. Le son que vous allez entendre ce soir est la captation donc sonore d'une table ronde au cours de cette journée qui a été spécifiquement consacrée à la transidentité et aux questions de genre. Alors, c'est un sujet évidemment que le livre traite. Alors, le livre en lui-même est plutôt en retrait de ce débat. Le contenu de l'ouvrage sera plus spécifiquement abordé dans d'autres émissions que nous avons réalisées toujours au Centre LGBTI dans le cadre de cette journée et qui vous permettront de mieux découvrir le livre en lui-même. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve tout à l'heure.
Je vais repasser la parole à Claire Lamberti, donc, qui est co-autrice déjà du livre « Les homophobes sont-ils des enculés ?» Et je voudrais justement te poser une question, Claire. Les homophobes sont-ils des enculés, mais les transphobes sont-ils des enculés?
Réponse très rapide, bien entendu. C'est pas ce que t'attendais.
Non, ce que je voulais dire, c'est que le titre, c'est les homophobes, justement.
Oui. On peut le prendre au sens général du terme, parce que souvent on parle d'homophobie, mais derrière l'homophobie, il y a la lesbophobie, il y a la transphobie, il y a la biphobie, il y a toutes les phobies. Et puis, globalement, c'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure aussi. Les phobies en général, puisque on est dans le rejet des autres quand on parle d'homophobie, et les autres, ça peut être les LGBT, mais ça peut être aussi tous les autres, voilà, puisque finalement on est tous différents les uns des autres, donc celui qui n'est pas moi, je le rejette. C'est un peu ce qu'on dénonce dans cette démarche finalement. Donc oui, la transphobie, c'est un des éléments des phobies LGBT. Ce qu'on peut dire sur la transphobie, c'est qu'elle est multiple. Voilà, il y a des visages de la transphobie sous tous les angles. On la vit aussi bien côté administratif que côté professionnel, dans la vie de tous les jours, sociale. On la vit aussi côté sexuel. Donc elle a vraiment des visages extrêmement différents. Voilà ce que je peux dire sur transphobie.
D'accord. Donc on va passer la parole peut-être à Florence.
Donc je suis Florence Varin, je suis une femme d'origine trans et la fondatrice, cofondatrice du Jardin d'été et cofondatrice aussi de Enfance Transgenre France. Je voudrais juste redire un petit mot, puisqu'en fait ça ne fait pas partie du déroulé après, par rapport à l'éditeur. Merci beaucoup d'avoir inclus dans votre ouvrage deux, trois petits clins d'œil à la transidentité. C'est un petit peu comme le rapport de SOS Homophobie. On en parle, je suis contente, parce qu'en 2017, on en parlait sur une page et demie. Chaque année, on prend une demi-page. Donc c'est cool, c'est assez sympa. Je pense que dans 2020, on aura la moitié du livre. Et donc je voulais vous remercier pour ça. C'était important pour moi de le signaler. Merci beaucoup.
Bonjour, du coup, moi c'est Yael Gestin, je suis bénévole à l'association Criseïd, qui est du coup une association d'accueil et d'entraide pour les personnes trans basée ici à Lyon. C'est l'une des plus vieilles assos trans de France puisqu'elle a eu 10 ans cette année. Avec Criseïd, on est également membre de la fédération trans intersexe qui s'est créée l'année dernière pour porter les revendications des personnes trans au niveau politique, au niveau national, puisque avant c'était une fonction qui était assurée par le collectif Existrance qui chaque année organise la marche Existrance qui donne de la visibilité à nos revendications. Donc maintenant on a une fédération qui regroupe pratiquement toutes les assos trans de France ainsi que la seule et unique asso intersexe de France. Donc on espère que ça va enfin porter ses fruits puisque donc du coup il y a 4 ans les homos ont eu le mariage et nous on peut pas dire que nos droits ont vraiment avancé en 25 ans. Et sinon moi je suis également militant queer, je suis en train de créer un collectif queer militant intersectionnel, féministe, qui vise surtout à déconstruire en fait les normes et lutter contre du coup à la fois la transphobie, le sexisme, etc. Et potentiellement proposer une alternative à toutes les constructions qu'on a et aussi proposer des alternatives à l'humour oppressif potentiellement.
Bonjour, moi je suis Kay, je suis le fondateur de la Bonnie and Clyde, qui est une association essentiellement trans, mais qui se veut essentiellement meuf gwyn trans, mais au final on a fini assez mixte. On crée des espaces safe et des événements à des espaces safe, on travaille énormément sur la déconstruction de genre. Et je suis aussi le fondateur d'un nouveau collectif qui s'appelle Brûlure, qui est plus orienté sur l'expression artistique, justement queer, et toujours basé sur la déconstruction de genre, etc. Et je n'ai pas tout effet d'arme, donc je vais m'arrêter. Voilà,
bisous. Donc on peut peut-être développer un petit peu tout ce qui tourne autour de la transphobie. Donc tout à l'heure j'ai évoqué les multiples facettes de la transphobie. Associé aussi à la transphobie, il y a tous les préjugés qui sont aujourd'hui très fortement ancrés autour des personnes trans et sur l'aspect sexualité, sur l'aspect prostitution, qu'il est important de souligner. Souvent, quand on dit qu'on est trans, on se trompe d'office sur la sexualité. Par exemple, moi, on me dit « Ah bon, donc tu aimes les hommes ?» Non, ben rien à voir, quoi. C'est deux niveaux différents d'une personne. Le fait qu'elle se sente homme ou femme selon le cas et ses attirances sexuelles n'ont absolument aucun rapport entre eux. Donc ça, on est pleinement dans le préjugé. La prostitution aussi, beaucoup de gens pensent que les femmes trans, c'est bois de Boulogne. Voilà, c'est la prostitution. C'est un raccourci qui est souvent amené d'ailleurs par la façon dont les médias nous représentent ou nous présentent tout simplement. Même si ça reflète une certaine réalité sur le milieu trans, dû justement à toutes les transphobies, à tous les rejets que subissent les personnes trans, qui les amènent finalement pour une partie dans la rue à se prostituer. Mais c'est une conséquence et c'est absolument pas une généralité du fait qu'on soit trans. Les discriminations liées à la transphobie, on les vit tous les jours en permanence en fait. C'est quelque chose qui pèse énormément sur la vie d'une personne trans dans son quotidien parce qu'elle est partout, elle est dans la rue, elle est quand on va dans un bureau de poste, elle est dans le regard des personnes, elle est dans le comportement général de la société. Donc c'est du quotidien. Donc Yael, tu veux ajouter ?
Oui, je veux rajouter que par rapport à ce que tu dis, bien sûr la transphobie c'est dans la rue, c'est des micro-agressions tous les jours, c'est le fait de se faire mégenrer par exemple, c'est-à-dire de quand on se présente comme une personne trans, moi je sais que ça m'arrive souvent, je suis un mec trans, quand je dis que je suis un mec trans, bizarrement tout le monde me genre au féminin alors qu'il ne faisait pas deux secondes avant. C'est des petites choses comme ça, mais la transphobie elle est aussi au niveau institutionnel, aller voir un médecin quand on est une personne trans c'est très compliqué, faire une transition c'est très compliqué aussi en France, au niveau institutionnel ça joue aussi sur le fait que pour changer nos papiers c'est toujours aujourd'hui assez difficile, ça joue sur la discrimination quand on veut accéder à l'emploi, c'est aussi pour ça ce que tu disais que beaucoup de personnes trans sont poussées vers la prostitution puisque la population trans est une population qui est extrêmement précaire et que les soins aujourd'hui pour transitionner sont très chers, qu'il y a des alternatives bien sûr qui peuvent le permettre de le faire en étant remboursé par la sécu, mais c'est aussi des alternatives qui ne conviennent pas à tout le monde. Et du coup la transphobie en fait elle est à tous les niveaux, c'est vraiment ça va toucher chaque aspect de la vie de la personne dans son quotidien, dans son travail, dans le fait de pouvoir ou non prendre soin de sa santé, prendre soin de son corps. Donc c'est important de le rappeler, je pense.
Ce qu'on peut dire aussi c'est je pense qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que avant ma transition je n'étais pas harcelé dans la rue, mais pas jamais. Depuis ma transition, je comprends le harcèlement que subissent les femmes dans la rue. Bon, il y a des fois, je ne fais pas la différence entre est-ce que c'est un harcèlement parce que je suis une femme trans ou est-ce que c'est harcèlement parce que je suis une femme tout court. C'est pas forcément évident, mais en tout cas, c'est bien une réalité et qui se vit là encore au quotidien. Voilà. Donc, on fait des liens. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais les phobies. C'est voilà, on fait des liens sur le sexisme, on fait des liens sur plein de choses en fait derrière ça. Alors, tu veux réagir ?
Oui, je voudrais revenir sur la discrimination. Effectivement, bon, c'est le sujet. La discrimination, elle se fait aussi au niveau médical. Ça, tu l'as dit tout à l'heure, ça c'est clair. J'ai, entre autres, sur la commission enfants trans, pardon, handicap, on s'est rendu compte, tu m'autorises à en parler, on s'est rendu compte que certaines personnes qui étaient malentendantes, par exemple, devant leur médecin pour la réalisation de l'ALD ou un suivi pour faire une transition, disait attends, tu entends pas, tu es sourde et tu es trans, tu veux pas attendre pour être trans un peu plus tard, quoi. Voilà, c'est des choses où on considère encore dans beaucoup de milieux, même voire même des milieux médicaux, psychiatriques, où on considère que la transidentité reste un handicap. Or, les professeurs, et un grand professeur en psychiatrie nous l'a dit dernièrement, a annoncé haut et clair que la transidentité, je pense que c'est important de le dire aussi, une petite note de positivisme, que la transidentité était un phénomène tout à fait naturel et ne dépendait pas de la psychiatrie. Et ça, de la part d'un haut professeur en psychiatrie, annoncer ça, pour moi, c'était déjà un pas en avant. Il reste, par contre, malheureusement, énormément de progrès à faire et énormément de choses à faire. Une chose sur laquelle aussi je voudrais revenir, c'est, tu en as parlé tout à l'heure, c'est la confusion entre l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Aujourd'hui, on assiste à des transitions de M2U, M2X, M2F, ou F2F, F2X, F2I. On a une déstructuration complète de la binéralité qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une société où il y a des hommes et des femmes. Il y a des êtres humains. Et il va falloir que ça, ce message, rentre dans la tête des gens, qu'on arrête de genrer, au risque de mégenrer, mais qu'on arrête de genrer les gens, puisque, en fait, on parle à des êtres humains.
Alors, tout à l'heure, on a déjà évoqué le mégenré, on le réévoque à nouveau. Moi, ce que je voudrais dire aussi par rapport à ça, aux personnes qui le font, j'allais dire par erreur, voilà. Le plus simple des comportements à avoir, finalement, pour. Savoir comment s'adresser à une personne, c'est de lui demander. Donc si on ne sait pas, autant dire à la personne « Bon, très bien, comment je dois t'appeler? Quel est ton prénom ?» On ne risque pas de se tromper. La personne va répondre en fonction de comment elle se sent, elle, et comment elle souhaite qu'on l'appelle. Donc c'est très simple de ne pas mégenrer une personne, il suffit de lui demander. Comme beaucoup de choses d'ailleurs dans la vie, hein, vis-à-vis des gens, quand on ne veut pas se tromper, ben on demande. Voilà. C'est assez bête, hein, mais ça rejoint le comportement... je veux dire naturel et de base qu'on devrait tous avoir en fait dans notre relationnel. Pour en revenir aussi à la transphobie, aux discriminations, tout à l'heure j'ai évoqué l'aspect sexuel. Pour les personnes trans, c'est aussi compliqué d'avoir des relations sexuelles avec d'autres parce que inévitablement on va se poser la question de savoir quand est-ce qu'on va devoir faire un coming out avec son partenaire, ça ou son partenaire. Comment cette personne-là va le prendre et est-ce que derrière, ça va pas aboutir à des violences?
Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et même, en fait, je ne sais pas si c'est compliqué d'avoir des relations sexuelles. Je pense que c'est plutôt compliqué de savoir si en face, la personne qu'on a va ou non être violente envers nous ou pas. Et paradoxalement, en fait, les personnes trans sont hyper sexualisées en quelque sorte, puisque quand vous rencontrez quelqu'un et que vous dites que vous êtes trans, une des premières questions qui vient, c'est « Ah, mais t'as quoi entre les jambes et comment tu baises ?» Alors, est-ce que vous poseriez cette question à un individu comme ça que vous rencontreriez dans la rue? La réponse est non. Non, du coup, ne le faites pas pour une personne trans, c'est mieux. Et surtout qu'en plus, ce qu'on a entre les jambes ne définit pas du tout notre genre, en fait. Le genre, c'est quelque chose de bien plus profond que ça. Et ça relève plus de l'identité que vraiment de ce qu'on a entre les jambes. Enfin, pour ma part, je suis un garçon et j'ai un vagin, je le vis très bien, merci. Et ça, c'est assez compliqué à faire entendre, je pense, aujourd'hui. Le fait que, je dis souvent aux personnes cis, mais si le fait que tu te sentes un homme repose uniquement sur ton pénis, quelque part, je suis un peu triste pour toi, puisque c'est, tous la seule vision que tu as de la masculinité, alors que aussi bien la masculinité, la féminité, on peut en avoir des visions qui sont très très larges et on n'est pas obligé de s'étriquer dans des comportements qui sont stéréotypés et pour la plupart sexistes.
Moi, je suis assez d'accord. Quand il y a des personnes, souvent des hommes d'ailleurs, qui me posent la question qu'est-ce que j'ai entre les jambes, je réponds ben, moi je te demande ce que tu as dans la culotte et s'il fait 8 ou s'il fait 12. En général, la personne comprend que c'était totalement inapproprié comme question. Voilà.
C'est pas la première des... le premier des points à déconstruire, justement, on va déconstruire, on va clarifier que sa sexualité ne définit pas son genre.
Que son appareillage sexuel ne définit pas son genre, effectivement, oui. Oui. Clairement, clairement, ça n'a rien à voir. Je me sens femme, totalement femme, et le fait que je sois opéré ou pas n'a pas d'interaction, on va dire, avec le fait que je me sente une femme. Dans ce qui constitue en fait une personne, il y a comment je me sens. Donc si je suis bien dans mon genre de naissance, je suis cisgenre. Si en fait je me projette dans un autre genre où au final je ne m'identifie à aucun genre aussi, je crois que tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure, hein, il y a de plus en plus de gens, on rencontre de plus en plus de gens qui finalement disent vous me faites chier avec votre genre, quoi. Moi je ne me reconnais ni dans le genre masculin ni dans le genre féminin. Soit je suis au milieu, dans la frontière, entre guillemets, si on peut estimer qu'il y a une frontière, elle doit être un peu large, la frontière, mais bon. Soit je suis à la frontière, soit au final, j'ai envie de m'approprier des codes associés au masculin et des codes associés au féminin, en même temps ou selon la journée, voilà, un jour plutôt dans le masculin, un jour plutôt dans le féminin. Donc voilà, la binarité qu'on nous applique au quotidien, en fait, elle est en train, moi c'est la sensation que j'ai, de progressivement de voler en éclats.
Oui, monsieur, si on considère, c'est encore une vision un peu simpliste de considérer ce que je vais dire, mais si on considère le genre comme un spectre, en fait, avec une extrémité masculine, une extrémité féminine, sur ce spectre, en fait, vous avez un million, un milliard, une infinité de possibilités, même qui sont exploitables, dans lesquelles on peut chercher des choses, qu'on peut expérimenter, et c'est là où ça devient intéressant, en fait, c'est qu'il n'y a pas que les personnes trans qui peuvent explorer ces possibilités-là, en fait. Nous, on est quelque part, je dirais, un peu obligés de le faire, parce qu'on n'a pas le choix, puisque soit en désaccord avec le genre qui nous a été assigné à la naissance, mais en fait, les personnes cis, donc du coup, les personnes en accord avec le genre qui leur ont été assignées à la naissance, peuvent le faire aussi, de déconstruire ces catégories du masculin et du féminin, et peuvent explorer ces possibilités, même ce serait mieux qu'elles je pense que ça peut être bénéfique pour énormément de gens, justement, de ne pas rester coincé dans ces catégories qui sont hyper, hyper fermées et qui imposent en fait un tas de comportements sur les gens qui nous correspondent pas forcément.
Je pense que les transidentitaires, comme tu dis, sont en fait innovateurs dans leur recherche de déconstruire. Bon, la minéralité, ça s'est déjà déconstruit depuis quelques années. On s'aperçoit que le genre, effectivement, devient... on n'est plus masculin ou féminin, mais il y a tellement de possibilités et tellement de genres, en fait, de gens qui s'approprient leur propre genre. Ce qui est intéressant, c'est que chacun va devenir véritablement son metteur en scène, son propre dirigeant. Et du coup, on peut partir du principe qu'il y a 7 milliards d'individus sur Terre. Enfin, ça, c'est un concept que j'aime bien. Il y a 7 milliards d'individus sur Terre, il y a 7 milliards de genres. Donc, s'il y a 7 milliards de genres, eh ben, du coup, on ne peut plus parler de genre. Et donc ça, c'est intéressant, puisqu'on revient à cette notion, ce que je disais tout à l'heure, sur l'être humain, qu'on sorte des clivages homme-femme, parce que c'est hiérarchisant, c'est discriminant. On s'aperçoit que même, on est encore à l'an 2000, enfin on est à l'an 2000, mais on a des discriminations entre hommes et femmes. Il y a encore de la violence, on n'en parle pas beaucoup dans nos milieux, mais avec les manifestations pour tous, j'ai aussi un peu envie de leur dire qu'il y a quand même un enfant qui est tué tous les deux jours en France, par violence conjugale, et une femme tous les jours qui meurt par violence conjugale. Donc on arrête aussi d'avoir nos petites frontières, qu'on regarde un petit peu tout autour ce qui se passe, et je pense que c'est tous ensemble qu'effectivement qu'il faut lutter contre cette notion de genre, de cette politique de genre qui en fait est réductrice pour nous.
Je pense au-delà du fait de lutter contre la notion de genre qui en fait, le genre c'est aussi c'est un mot qui est un peu parapluie pour dessiner plusieurs choses en sociologie. Le genre c'est enfin on est en sciences humaines en général, le genre c'est ce qui permet en fait de mettre au jour les discriminations, en fait étudier une société au travers du prisme du genre, ça permet justement de voir les constructions qui est à l'œuvre et qui séparent en fait justement du coup les genres hommes-femmes généralement. et qui les construisent, qui en font des stéréotypes, et ça met aussi au jour en fait les discriminations qu'il y a et la hiérarchisation qu'il y a entre ces genres-là. Et après il y a les genres du coup qui sont ça, sont plus des relèves de l'identité personnelle, et du coup moi en tant que queer, plutôt que de détruire en fait le genre, je suis plus pour le pervertir et en faire un objet de création et qu'on puisse s'approprier en fait et de totalement hijacker les genres féminins, masculins et tout ce qu'on peut trouver entre et autour et voilà.
Alors Clément des SOS Homophobie, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais Florence, donc j'ai compté effectivement, on a 7 pages sur la transphobie dans le rapport SOS Homophobie 2017, et je suis complètement d'accord avec toi pour dire que j'espère qu'il y en aura plus les autres années et qu'on va progresser à ce niveau-là. Je voulais surtout revenir sur ce que tu disais par rapport à ta deuxième association, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, on voit aussi ce qui a permis entre guillemets de faire diminuer ou du moins de faire mieux accepter l'homosexualité dans la société, c'est aussi la loi. Et aujourd'hui, quand on voit les avancées qu'on a en France, j'ai envie de dire, peut mieux faire, quoi. Voire, il y a encore énormément de progrès à faire. Et ça, c'est un paramètre qui est très important. Si on veut aujourd'hui aussi que les personnes trans soient mieux acceptées dans la société et se sentent mieux acceptées, je pense qu'il faut clairement interpeller, continuer à interpeller le législateur par rapport à ça, parce que les avancées sont encore bien trop maigres. On peut le voir rien qu'avec les... Enfin, la petite avancée qu'il y a eu en 2016, vous pourrez peut-être en parler mieux que moi, mais ça reste quand même anecdotique. Et aujourd'hui, le problème, il est là. Et on parlait tout à l'heure avec Florence de ce qui peut se passer dans d'autres pays, notamment au nord de l'Europe, au Canada, par rapport aux enfants, où on parle aussi beaucoup de l'éducation. Comment on aborde ce sujet dès l'enfance? Comment on accompagne les enfants? Et je pense qu'en France, on a encore beaucoup à faire.
Alors, pour parler de Enfants Transgenres France, c'est un organisme qui va effectivement donc s'occuper des enfants, mais surtout s'occuper de la formation des parents. Parce que les parents, quand leur enfant leur annonce, quand ils font leur coming out, comme on dit, c'est véritablement un tsunami qu'ils reçoivent sur la figure. Et les parents ne sont pas formés, et aujourd'hui, il n'y a aucune structure en France qui permet aux parents... d'avoir de l'aide, du secours. C'est d'ailleurs pour ça que le Jardin d'été a créé une ligne d'appel d'urgence qui est nationale, qui est ouverte 24 sur 24, 7 jours sur 7, où on répond beaucoup à des parents d'ailleurs qui sont en questionnement et tout ça. Et le but de... D'ailleurs, la première action de Enfance Transgenre France, c'est de créer des groupes de parole au niveau pour les parents.
Ça existe déjà, les groupes de parole pour les parents au sein de plusieurs associations trans. Je pense notamment à Outrance à Paris, Chrysalide aussi le fait ici à Lyon. Des groupes de parole spécialement destinés justement à accueillir les parents d'enfants trans, ou les proches même en règle générale, les conjoints, les enfants aussi, qui les accueillent et qui en fait les aident aussi à accepter ça. Voilà, donc c'est quelque chose qui, je suis tout à fait d'accord, qu'il y a à développer et qui se fait déjà dans certaines associations et qui se fait très bien aussi... le travail des associations là-dessus est plutôt bon. Je pense notamment à Outrance qui fait un très bon travail là-dessus.
Est-ce qu'il y a des questions dans le public ?
Quelqu'un qui a demandé la parole, oui.
Merci. Je voudrais rebondir déjà sur l'intervention de Clément en disant que peut-être vu de France, parfois on a l'impression qu'il... je ne savais pas dire que rien n'est fait, mais pas grand-chose n'est fait. Mais hors... de l'Hexagone, si je ne me trompe pas, ce qui est fait a un énorme impact. Et je voudrais parler de quelqu'un qui, pendant longtemps, qui avait pour Bertrand Delanoé comme exemple, et qui, même quand ça n'allait pas, qui prenait Bertrand Delanoé en disant, bon, parce que c'était le seul homosexuel qu'on connaissait dans le monde vu de la France, sur le plan médiatique. Alors, je voudrais également, c'est pas une question que je voudrais évoquer ici, mais plutôt une contribution. Ailleurs, je vais te référer ailleurs, parce que autre lieu d'où je viens, les homosexuels sont généralement associés aux trans, sur le plan social, oui. Et la transidentité est généralement associée à la sorcellerie. Et l'homosexuel est associé aux trans. Parce que l'homosexuel est considéré comme cette individus qui se situent entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une identité qui est, comme le montre le dessin, il est homme et femme. Et réellement, il perturbe. Et tout ce qui n'entre pas dans la norme est associé à la sorcellerie. Donc, en tant que tel, parler de trans, jusque-là, je n'avais pas vu l'impact, je n'avais pas vu le lien, du moins, je n'avais pas vu le point entre les homosexuels et les trans. C'est en écoutant les interventions que ça m'a ramené un peu à ce que je voyais un peu autour de moi, ou alors ce que j'entendais. Et par là, je me rends compte qu'en fait, l'homosexualité renvoie à la transidentité sociale, en fait. Voilà, merci.
Il y a plusieurs choses. En fait, je voudrais juste poser une question. C'est que, effectivement, les homosexuels, les transidentitaires, les personnes qui sont gauchers sont, dans certains pays, considérés comme des sorciers. J'ai peur pour les vrais sorciers qui sont cis, pas homo et pas trans. Ils doivent vraiment savoir... Ça envoie beaucoup ces gens. Alors, là, en fait, on revient sur une notion de perversion. Et dernièrement, j'ai entendu le discours d'un pasteur, ça s'est passé en France, hein, ça se passe en France, d'un pasteur qui me dit, de toute façon, cette dame, elle ne peut pas rentrer dans mon église parce que son enfant est trans. J'ai dit, oui, et où est le problème? C'est que quand elle était enceinte, elle a piché. Je lui dis, alors, j'aimerais beaucoup savoir à quel moment, si c'est entre le troisième et quatrième mois, quand elle a la barre de carambar collée contre les dents, que son enfant est devenu trans. Là, il s'est rendu compte un petit peu de son erreur. Aujourd'hui, tout ce qui est dans la mentalité des gens pervers, gaucher, homosexualité, transidentité, ça a été pendant très 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 longtemps considéré comme pervers. Le gaucher, c'était la main du diable, hein, on est d'accord. Bon, petit à petit, notre société évolue. Grâce à Dieu, pour les gauchers, on ne leur attache plus le bras gauche dans le dos. Et tout simplement avec une bêtise. Hein. C'est un professeur qui, un jour, a effectivement découvert que c'était, en fait... Alors, je suis pas scientifique, excusez-moi si je fais une erreur, mais c'était l'hémisphère droite qui avait effectivement fait un truc bizarre, rigolo, que l'autre, il se retrouve gaucher. Et du coup, le fait d'être gaucher était plus du tout pervers et c'était tout à fait naturel. Voilà. Or, on assiste aujourd'hui à un courant de scientifiques qui reviennent un petit peu sur leurs notions et qui disent l'homosexualité, la transidentité, eh bien c'est quelque chose de naturel. Moi, je suis né, j'étais trans. Je suis né dans un corps de garçon, effectivement, mais tout le reste dans ma tête, c'était fille. Je l'ai réalisé un petit peu plus tard, je me suis mis en conformité, pas avec la loi, hein, mais avec moi-même, et tout va bien. Et ça n'a rien de pervers. C'est naturel et ça n'a rien de psychiatrique.
Alors, petite question. Moi, je voudrais que vous nous rappeliez ou que vous nous éclairiez sur l'aspect légal en France. Le parcours du combattant, en commençant par l'accompagnement au niveau des associations que vous proposez, bien sûr, mais aussi le suivi psychiatrique qui est imposé, ce que ça veut dire psychologiquement, combien de temps ça dure en gros et pourquoi c'est demandé comme ça en France, le changement d'état civil, qu'est-ce qui vous est demandé ou pas en termes de changement de sexe et pourquoi, et pour le rôle des psys là-dedans, le juge aussi, voilà. Que vous puissiez nous éclairer un petit peu tout ça et qu'on comprenne, en tout cas au niveau de l'assistance, du coup, le chemin qui reste à faire au niveau de la législation en France.
Oui, alors bah déjà, comme Claire vient de me le faire remarquer, en 2012, du coup, le Sénat a inscrit la transphobie dans la liste des discriminations, ce qui n'était pas avant. Du coup, donc chaque année, généralement, on revoit la liste de ce qui rentre dans les discriminations et on en rajoute chaque année. Du coup, la transphobie a été rajoutée en 2012, donc c'est plutôt déjà une avancée.
Donc il y a 5 ans quand même.
Il y a 5 ans, c'est assez récent. Je rajouterais que jusqu'à récemment aussi, la France était condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, justement par rapport au fait qu'elle n'avait pas de loi claire par rapport au changement d'état civil des personnes trans, c'est que bien souvent, pour pouvoir changer d'état civil, les personnes trans devaient justifier d'une opération irréversible, ce qui généralement se traduisait par une opération de stérilisation. On parle quand même de stérilisation, là, c'est quand même assez violent, il y a pas mal de personnes qui ne souhaitent pas se faire stériliser, pour plein de raisons, et c'est tout à fait légitime, c'est quand même notre corps, ça nous décide ce qu'on veut faire dessus, et c'était des opérations qui sont lourdes, etc. Et pour pouvoir changer d'état civil en France, c'était demandé. Du coup, la France s'est fait condamner plusieurs années de suite par la Cour européenne des droits de l'homme. Et l'année dernière, donc en 2016, il y a une loi qui est passée qui définit enfin comment doit se passer un changement d'état civil. Alors, les revendications qu'on porte depuis 20 ans avec la marche Existrans, c'est un changement d'état civil libre et gratuit auprès d'un officier d'état civil, donc en mairie. Il se trouve que ce n'est toujours pas ça. Maintenant, ça se passe toujours dans un tribunal auprès d'un juge. Il faut présenter un dossier qui atteste qu'on se vit bien dans le genre dans lequel on demande pour pouvoir changer d'état civil. Et du coup, ça peut se traduire par aussi bien des attestations de proches qui font écrire « oui, je connais truc, il se comporte comme un garçon », donc c'est toujours très stéréotypé en termes de normes de genre. Hein. Et, ou alors des attestations médicales, mais c'est plus obligé de fournir des attestations médicales. Moi, j'ai un ami qui vient de changer d'état civil à Grenoble, il avait mis aucune attestation médicale et tout son argumentaire se basait sur le fait « non, mais c'est ridicule que j'ai un F sur ma carte d'identité, vous voyez bien que ça correspond pas du tout à ce que je suis ». Bon, il se trouve qu'il a eu son changement d'état civil, c'est une première en France, un changement d'état civil sans attestation médicale.
Non, c'est pas une première.
C'est une première à Grenoble.
Peut-être à Grenoble, oui, mais il y en a partout en France.
Suivi toutes les, parce que du coup, en fait, la loi a été mise en application en mars. Du coup, on a assez peu de recul aussi sur la manière dont elle est appliquée. Parce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui, par sécurité, mettent des attestations médicales. Sauf que du coup, ça crée chez les juges une suspension d'habitude. Parce que c'est toujours les mêmes juges qui jugent les changements d'état civil. Les mêmes que ceux qui, avant, nous demandaient de la stérilisation. Du coup, il y a... Il y a toujours une mise en avant en fait du côté médical par rapport à la transidentité qui n'a pas lieu d'être en fait, parce que c'est pas parce qu'on est trans qu'on va forcément vouloir soit prendre des hormones soit faire des opérations, et ça nous rend pas moins légitime dans notre genre. Et du coup voilà, donc il y a toujours cet aspect là qui est un peu discutable par rapport à la loi, même si c'est clairement une avancée puisque déjà on a une loi. Après, à voir que si on peut déjà aller plus loin, et à voir aussi comment ça va se passer, si on va pouvoir avoir des changements d'état civil qui vont être simplifiés. On n'a pas encore assez de recul, ça fait à peine un an qu'elle est mise en application. Du coup, je pense qu'il faudra attendre un peu avant d'avoir des résultats concrets sur cette loi et pouvoir en parler de manière plus précise.
De nous retrouver sur Pluriel Gay pour la suite de cette table ronde qui s'est organisée dans le cadre de la présentation du livre « Les homophobes sont-ils des enculés ?». C'était le 9 décembre au centre LGBTI. Les intervenants, je vous rappelle leurs noms, Florence Varin et Claire Lamberti du Jardin d'été. Yaël Cash de l'association Chrysalide.
Ouais, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a une association qui a pris la peine... De faire une petite cartographie. Donc c'est l'ANT, donc je vous la montre très rapidement. Il y a plein de couleurs. Alors derrière toutes ces couleurs, ça veut dire que finalement, même en Europe, on est loin d'être homogène sur cet aspect législatif. Les couleurs vertes, c'est les couleurs où en fait on a atteint la cible qu'on espère tous et toutes. Et donc on va directement déclarer bonjour, je suis monsieur ou madame, et puis c'est enregistré, et puis c'est fini, on n'en parle plus. Donc sur du simple déclaratif. Donc il y a quelques pays déjà qui sont dans cette cible, on va dire. Donc la Belgique, le Danemark, l'Irlande, Malte, la Norvège, et puis en dehors de l'Europe, il y a aussi l'Argentine et la Colombie. Voilà, et ça correspond à la couleur verte. Donc vous voyez que la couleur verte...
Elle est minoritaire.
Elle est minoritaire, voilà. Et vous avez aussi beaucoup de rouge. Donc on évoquait ça tout à l'heure aussi, là, tous les rouges, c'est tous les pays où la stérilisation en fait est imposée pour obtenir son changement d'état civil. Voilà. Bon, c'est beaucoup à l'Est, donc on a beaucoup entendu des choses sur ce qui se passe à l'Est, pas que chez les personnes trans, mais voilà. Donc en France, notre cible n'est toujours pas atteinte, et il est évident qu'on demande tout simplement une reconnaissance, non pas des autres, mais de ce qu'on sent nous-mêmes, donc du déclaratif et du gratuit, parce que je n'ai pas précisé non plus, mais dans les pays verts, c'est libre et gratuit. On n'a pas en plus à payer pour pouvoir être qui on est. Voilà, c'est si je le formule comme ça. Oui, mais on doit encore attendre qu'un juge nous dise oui, vous êtes bien ce que vous êtes.
Voilà, c'est ça, comme dit Claire, en fait, à chaque étape entre guillemets de notre transition, que ce soit pour changer d'état civil ou même si on souhaite accéder à des hormones, des opérations, il va falloir qu'on ait la validation d'une tierce personne qui nous dise « Oui, d'accord, je suis d'accord pour que vous soyez bien ce que vous me dites que vous êtes ». Par rapport pour les personnes qui souhaitent faire une transition médicale, en France aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. Il y a des équipes hospitalières, donc une équipe publique, donc il y en a quelques-unes dans les grandes villes en France qui sont dirigées par la SOFECT, qui est une congrégation de médecins qui se proclame spécialiste de la transidentité. Et de l'autre côté, donc ça c'est un parcours qui est pris en charge par la sécurité sociale, donc ça a un certain avantage financier évidemment. Et de l'autre côté, du coup, il y a un parcours qu'on dit privé et dans lequel les personnes peuvent choisir leur médecin et dans lequel leurs médecins ne leur sont pas imposés. Et ça, par contre, ça coûte très très cher puisque c'est pas du tout pris en charge et comme je disais, les populations trans sont des populations précaires. Oui, par exemple, les chirurgies au niveau de la chirurgie, les chirurgies sont considérées comme des chirurgies esthétiques. Donc évidemment, ça n'a rien d'esthétique, bien sûr. Et en fait, il se trouve que peu importe le parcours qu'on fasse, qu'on passe dans une équipe du coup hospitalière ou dans des équipes privées, à chaque fois qu'on va voir un médecin, donc déjà, il faut commencer par voir un médecin psychiatre qui va bien attester qu'on est atteint du syndrome de transsexualisme. C'est chouette comme terme. Et qui donc va s'assurer aussi qu'on n'ait pas atteint d'autres psychoses. Donc par exemple, si vous souffrez de schizophrénie, de bipolarité, de dépression ou autre manière de fonctionnement cérébral qui ne rentre pas dans la norme, les psychiatres sont un peu réticents à vous accorder le droit de transitionner. Puisqu'ils estiment que le fait de vous sentir en désaccord avec votre genre d'assignation pourrait relever de cette psychose. Bien évidemment, les associations se battent aussi contre ça. Et du coup, voilà, donc déjà, ça commence par un psychiatre qui va, sur des critères assez flous, déterminer que oui ou non, on est bien trans, puisque, enfin, il y a autant de manières d'être trans qu'il y a de personnes trans, bien évidemment, et en plus, il se bat généralement sur des critères assez stéréotypés. Enfin, c'est mieux quand vous voulez quand vous êtes assigné femme et que vous voulez devenir un homme avec des gros guillemets, d'aimer les voitures et le foot et la bière, et aussi d'aimer les filles, de finir par être hétérosexuel. Enfin, moi je me souviens de ma psy quand elle m'a demandé quelle était mon orientation sexuelle, j'ai senti la question venir et je lui ai dit je sais pas, je pense que je préfère les filles. Ah bah tant mieux, parce que c'est pour coucher avec des mecs, autant rester une meuf. D'accord, merci.
Non mais d'accord, on parle du parcours officiel. Moi c'est ça, j'ai eu en parcours officiel que je me suis tiré justement.
Ouais, donc du coup après ça dépend des psys, bien évidemment. Il y en a qui sont pas tous comme ça, il y en a qui sont beaucoup moins clichés et stéréotypés, mais bon, c'est quand même des choses qui continuent d'exister. Et après le psy qui va donc vous faire un petit papier pour dire que vous êtes bien trans, vous pouvez accéder à un endocrinologue qui pareil va vous reposer plein de questions aussi, même si vous avez votre papier, va vous poser plein de questions de ce même type pour voir si oui ou non il va vous donner des hormones. Et ainsi de suite jusqu'aux chirurgies si la personne en souhaite ou non. Et puis encore une fois devant le juge pour pouvoir changer d'état civil. Donc à chaque fois en fait on est dépendant des personnes qu'on a en face de nous et qui connaissent pas forcément beaucoup plus de choses que nous sur déjà sur les trans et en plus sur nous-mêmes. Enfin, il y a personne qui est plus légitime à dire ce qu'on est que soi-même, et ça c'est assez compliqué aujourd'hui de faire des transitions pour ça en fait, parce qu'on peut être bloqué pour des motifs absolument fallacieux sur toutes les étapes en fait.
Alors sur ce point, j'ai sorti une étude qui vient du Williams Institute, qui appartient à l'université de Californie, Los Angeles, ou l'UCLA, et qui montre, ils font tous les ans une étude dite de santé sur tous les États-Unis, et qui montre que, en comparaison entre les cisgenres et les transgenres, sur plusieurs thèmes, qu'il y a quand même un net désavantage pour les transgenres, dû à tout ce qu'on a évoqué, la transphobie et autres. Donc en ce qui concerne les pensées suicidaires, pour les cisgenres, c'est 10% de la population qui a des pensées suicidaires. Pour les transgenres, c'est 34%. Pour les tentatives de suicide, c'est 4% pour la population cisgenre, 22% chez les transgenres. Pour les détresses psychologiques, c'est 9% chez les cisgenres et c'est 33% sur les transgenres. Tout ça aussi pour illustrer le propos d'Yael, c'est-à-dire que de toute façon, si les psys nous abordent en disant « est-ce que vous allez pas bien ?», c'est pour ça que je viens vous voir et c'est pour ça que je veux faire une transition. Donc forcément, je vais pas bien. C'est pas ça qui va empêcher une transition et surtout pas un élément qui va empêcher une personne de faire une transition. Ce que on a vu il y a pas longtemps à la thèse d'un de nos amis, thèse en doctorat de psychiatrie, il a très bien aussi illustré que chez les personnes trans, le fait d'amorcer une transition faisait largement baisser pour la plupart tous ces problèmes psychologiques, pour la simple et bonne raison que quand on a fait une transition, on se sent beaucoup mieux, puisqu'on est en phase avec nous-mêmes. Donc tout ce stress psychologique, ces envies de suicide ont tendance à disparaître, ou en tout cas à revenir à un même niveau que le reste de la population. Donc voilà la parenthèse que je voulais
faire.
Voire
même mieux, puisque dans la communauté trans, les personnes qui sont accompagnées par leur famille, on assiste à une diminution de 94% des tentatives et d'un esprit suicidaire, ce qui est aussi très important.
Et je voudrais revenir aussi sur deux choses, parce que il y a des choses que je voulais dire, j'ai oublié de le dire aussi par rapport à l'état de la législation, c'est que dans les pays qui sont les moins avancés, je vais dire ça comme ça, il y a certains pays qui demandent aussi un divorce obligatoire, c'est-à-dire pour être autorisé à changer d'état civil, à faire sa transition, donc on demande de divorcer. Pour certains, on demande aussi est-ce qu'il n'y a pas d'enfant. Enfin voilà, il y a tout un tas de critères qui sont absolument hallucinants.
Ceci dit, là, on parle de pays moins avancés, nous on demande une mutilation de la personne. Enfin, je trouve que le divorce finalement c'est moins
dur.
C'est une violence aussi. C'est intéressant de le souligner quand même, que ça va jusque là aussi, de demander à des personnes qui s'entendent bien en couple avec de mettre fin au couple pour pouvoir être qui on est. C'est hallucinant quand même, c'est ce que je voulais souligner. Et par rapport à ce qu'on évoquait aussi de l'apparence, je voudrais lire un texte de Sun Yi-Yoon qu'elle voulait lire en fait quand elle est passée au tribunal pour son changement d'état civil. Alors je ne vais pas lire tout le texte parce qu'il est un peu long, mais moi il y a une partie qui m'a semblé quand même assez intéressante de souligner. J'attire vos attentions, mesdames, messieurs les juges, sur l'éventualité d'un jugement défavorable motivé par une apparence insuffisante. Que se passera-t-il lorsqu'une personne trans se fera débouter parce que son apparence n'est pas assez convaincante ? C'est naturellement que les associations accompagneront cette personne pour faire appel de ce jugement et indéniablement nous poserons la question suivante à la cour d'appel. Comment jugez-vous l'apparence d'un homme ou d'une femme au regard de l'article 61.6 alinéa 3 du Code civil ? Nous dénoncerons toute discrimination fondée sur l'apparence physique, discrimination énumérée par l'article 225.1 du Code pénal, la discrimination sur l'apparence physique. Donc ça met en miroir aussi, on a parlé des discriminations, le fait que chez les personnes transgenres, la discrimination sur l'apparence physique est une réalité qui se pratique aujourd'hui dans les tribunaux.
Oui, c'est ça. Voilà. Si le juge que vous avez en face de vous estime que vous n'avez pas l'air assez femme ou l'air assez homme pour, je ne sais pas, quelconque raison, qui est selon ses propres conceptions de ce que doit être une femme et un homme, il peut refuser le changement d'état civil sur ce simple motif, ce qui est quand même assez grave.
Alors tout à l'heure, j'ai vu passer une question concernant la visibilité justement trans à la télévision. Pourquoi la transphobie ne bénéficie pas de sensibilisation vidéo, médiatique, je pense à France TV ou aux autres médias, je suppose.
Alors déjà, parce que c'est pas un sujet qui est vendeur, comme les films comiques ou les films de tragédie qui ont beaucoup plus de succès, et sur un film tragédique, on va pouvoir vendre de la publicité. là, sur une émission traitant de la transphobie ou de la transidentité, on plombe un peu l'ambiance et il n'y a pas beaucoup de publicitaires qui veulent financer le truc. Donc il y a déjà ça. Après, on n'a pas beaucoup d'intervenants en fait médiatisés ou médiatiques, on va dire, qui sont à même de prendre la parole au niveau de la télé et de témoigner. On a là cette année 2-3 émissions qui sont passées, qui sont sorties. Ben, est-ce que ça voulait ?
Alors, en fait, moi, au niveau des émissions sur les personnes trans, c'est vrai qu'on en a eu quelques-unes assez récemment. Ce qui me pose surtout problème, c'est qu'en fait, on se concentre sur des personnes qui font leur transition. Mais sauf que être trans, c'est pas seulement faire une transition. Ça va bien au-delà de ça. Et quand on parle, généralement, les émissions médiatisent ça aussi sur la souffrance, c'est difficile. Mais on dit jamais pourquoi c'est difficile. Pourquoi c'est difficile ? Parce qu'on est dans une société qui est transphobe, parce qu'on subit la transphobie, parce que la transphobie, elle est à chaque niveau. Elle est étatique, elle est médiatique, elle est dans notre vie personnelle. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dit dans ces émissions-là. On préfère se concentrer sur le parcours d'une personne qui va prendre des hormones, se faire opérer pour devenir une vraie femme. Donc déjà, s'il vous plaît, une vraie femme, on va arrêter. Et par contre, on ne va pas parler de la transphobie qu'elle peut subir au quotidien, ni de la difficulté que ça va être, en fait. C'est quelque chose on préfère se concentrer sur le sensationnel la personne va faire son coming out à ses parents et du coup, sa mère va souffrir parce que vous comprenez, c'est quand même très très compliqué. Et du coup, voilà, c'est dans rajouter du pathos, etc. Mais sauf que c'est nos vies, elles sont pas spécialement pathétiques. Et en plus, notre vie ne se limite pas à notre transition. C'est une étape qui est importante pour nous, mais c'est pas que ça. Derrière, on est aussi des personnes, on a des amis, on a des amants, des amantes, on a un travail, on fait des études, on milite aussi, on en parle, et c'est pas que ça, quoi. Oui.
Non, je rajouterais aussi... Il y a le syndrome un peu bête de foire quand il y a des émissions sur les trans. La plupart du temps, c'est vraiment bête de foire. Ils vont prendre plaisir à montrer le avant, après. Et ça encourage les comportements des personnes qui rencontrent des trans et qui sont tout de suite là. C'est quoi ton vrai prénom ? T'es opéré ? Tu comptes te faire opérer ? Ça entretient tout ça. Enfin, faudrait peut-être occulter à un moment donné que, ouais, il y a un avant, mais comme chacun d'entre nous, trans ou pas trans, il y a toujours un avant, une évolution, on devient qui on veut, avec ou sans changement de genre. Et c'est juste très déplacé d'entretenir ça médiatiquement, le côté avant, après, avec Dieu, enfin, tout ce qui va avec.
Il y a quand même un avant, un pendant et un après, effectivement, et la vie s'inscrit dans toutes ces étapes. Et vous tous ici, en fait, vous croisez tous les jours des personnes qui ont fait une transition, quelle qu'elle soit, attention, chirurgicale, sociale, tout un tas de choses, et en fait, vous les identifiez dans le genre que cette personne désire. Et vous ne les qualifiez pas de transgenre parce qu'en fait, vous ne le savez pas. Voilà, ça c'est important aussi, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont aujourd'hui qui sont sortis des radars et qui mènent une vie tout à fait normale. On a tout à l'heure insisté sur le côté une population un peu précaire. Alors oui, effectivement, une partie de la population est relativement précaire de par tout un ensemble de choses dont on a parlé tout au début, mais il y a aussi des gens qui réussissent très bien dans leur vie et qui sont voire même chefs d'entreprise ou cadres supérieurs ou ainsi de suite. Il y a des gens qui réussissent très bien.
Alors, il y a des gens qui réussissent très bien. Malgré tout, je n'arrive pas à retrouver mon papier. Je voulais quand même souligner que c'est un des points qu'on a abordé tout à l'heure, que l'accès à l'emploi était un vrai problème pour les personnes trans. C'est important pour moi de souligner les dates parce que c'est chaque fois des dates très proches. Hein. On est dans le quotidien des trans aujourd'hui. Hein. Donc là, deux jugements de 2015. L'un pour une personne qui n'a pas été recrutée parce qu'elle était trans et l'autre d'une personne qui a été dans une entreprise depuis longtemps et qui a été virée parce qu'elle était trans, qu'elle avait fait en fait son coming out. Donc voilà, des jugements qui ont été rendus. Donc il y en a une personne, en fait, c'était avec les Compagnons du Devoir. Donc ils ont été condamnés, les Compagnons du Devoir, à 1 500 € de dommages et intérêts. Entre nous soit dit, c'est pas grand-chose. C'est vraiment ridicule même. Mais enfin bon, ils ont quand même été condamnés. Puisque tout s'est bien passé, en fait, au niveau des entretiens d'embauche, jusqu'à ce qu'on aborde l'identité officielle. L'état civil, on va dire, et là tout d'un coup, on vous embauche pas. Voilà. Donc 1 500 € quand même pour ce comportement discriminatoire, c'est rien. Et la deuxième personne, en fait, c'est une personne qui travaillait chez La Roche, une entreprise de textile du Rhône, qui s'est faite virer, et elle a reçu 30 000 € quand même de compensation pour préjudice moral et 4 150 € au titre d'une prime d'intéressement à la salariée. Voilà. Donc les condamnations commencent à se faire. Là, c'est les prud'hommes à chaque fois qui ont pris en charge les dossiers. Ça commence à se faire. Mais ça, pour moi, ça reflète quand même, je veux dire, une réalité chez les personnes trans aujourd'hui dans le monde du travail. Moi, je sais parfaitement que je fais partie des exceptions, que c'est bien que je sois, entre guillemets, visible, parce que ça prouve à d'autres personnes trans que c'est possible. Mais la réalité reste quand même en majorité celle que je vous ai lue ici, c'est-à-dire entretien d'embauche qui se termine mal et un coming out professionnel qui se termine mal aussi. D'ailleurs, le film qui était passé sur France 2, ça a été passé sous silence. Je ne sais pas si ceux qui l'ont vu en fait ont capté le moment, mais vers la fin du téléfilm, la personne qui fait sa transition a reçu une lettre de son employeur. C'était en fait un licenciement. On n'en a absolument pas parlé dans le débat. Et pour moi, c'est un problème majeur. Parce que vivre correctement dans la société, c'est quand même avoir un travail.
Oui, et puis au niveau du travail, ça me permet de refaire un petit encart par rapport à l'état civil. C'est quand vous passez un entretien d'embauche, si votre apparence physique ne correspond pas à vos papiers, ou par exemple que vous présentez sous le nom de Mademoiselle Machin et que sur votre carte d'identité c'est écrit Monsieur Machin, c'est compliqué. Et le fait de ne pas avoir un changement d'état civil qui peut être rapide et qui peut se faire à n'importe quelle étape de la transition aussi, ça empêche déjà en fait parfois d'avoir un travail. Parce que si vous dites à votre employeur, oui, alors en fait, c'est moi monsieur, mais sur ma carte il y a encore écrit mademoiselle, ça vous oblige à déjà dire que vous êtes trans, et ça s'appelle un outing forcé, et c'est souhaitable à personne, parce que ça peut être extrêmement violent, vous savez pas comment la personne va réagir en face, et surtout vous pouvez du coup être discriminé à l'embauche et du coup, comme le disait Claire également, vous faire renvoyer. Enfin, ça relève aussi également de la protection de la vie privée. Le fait d'être trans ou non relève de la vie privée, et le fait de devoir le dire à un potentiel employeur quand on passe un entretien d'embauche parce que nos papiers n'ont pas pu être changés pour x ou y raison, c'est de l'atteinte à la vie privée, et ça c'est une discrimination qui touche tous les trans aujourd'hui, quoi.
On va conclure la table ronde, donc
oui,
vas-y Claire, de toute façon c'est toi qui vas faire la conclusion, ce signal.
Avant que tu conclues, il y a une question qui est au tableau. En fait, on pourrait peut-être y répondre. Yael, si tu veux aussi avec moi, pourquoi l'État ne financerait pas une campagne de sensibilisation audiovisuelle et pourquoi ne fait-elle pas son travail ? Alors, je pense que l'État, avant de faire une campagne de sensibilisation audiovisuelle, elle devrait déjà s'occuper de l'éducation nationale et partir à la base sur l'éducation des enfants, ou j'allais dire la rééducation des parents.
Et puis faire des lois qui nous permettent de changer d'état civil et faire en sorte que les personnes trans ne soient plus les rebuts de la société. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte ici. En fait, l'État se désintéresse totalement des questions trans. Donc, là, faire une campagne audiovisuelle, je pense qu'on aura pas mal avancé, peut-être. Et peut-être que quand ils feront une campagne audiovisuelle, on aura des droits qui seront égaux au reste de la population aussi. On ne sait pas, un jour. Oui, voilà, aussi le fait est qu'on n'intéresse pas. Enfin, je veux dire, les trans, c'est quoi ? C'est un très faible pourcentage. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'une minorité qui a un très faible pourcentage, bon, qui gueule un peu de temps en temps ? C'est pas grave. Voilà, c'est une minorité. C'est marrant, c'est le même argument qu'on avait entendu au moment du mariage pour tous. Bah voilà. Mmh. Et ça, c'est un désintéressement total des institutions par rapport aux personnes trans, quoi. Donc, bon, je pense que la campagne audiovisuelle, elle n'est pas pour tout de suite.
Ah bah justement, ça tombe bien, parce que ce que je voulais souligner sur la fin de cette table ronde, c'est l'aspect chiffre. Parce que finalement, on parle de qui ? Est-ce que c'est 2-3 personnes sur la France, ou est-ce que c'est beaucoup plus que ça ? Donc je vais me référer à nouveau au Williams Institute, qui est toujours à l'Université de Californie Los Angeles, l'UCLA, qui fait des études tous les ans sur l'ensemble de la population américaine, et grâce à des questions qui sont posées, alors pas dans tous les États, pas dans les 50 États, sur 19 États uniquement je crois, mais après ils en tirent des conclusions sur l'ensemble des 50 États, permettent de sortir des estimations de volumétrie et donc un pourcentage de personnes trans dans la population. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut en dire que la moyenne, l'estimation, c'est 0,6% de la population. Donc si on ramène ça aux 67 millions de Français, ça veut dire qu'on a plus de 400 000 personnes transidentitaires en France. C'est quand même une minorité, on est d'accord, mais une minorité qui commence à faire du volume. Il faut savoir qu'entre deux études qu'a fait cet institut, la proportion a doublé. Pourquoi elle a doublé ? Parce que s'autoriser à dire qu'on est trans, ça veut dire quand même qu'on casse la pression sociale qu'on vit. Et que ben on commence à avoir des personnes, notamment aux États-Unis, des role models, des personnes connues en fait qui disent haut et fort je suis trans, hein, que ce soit, enfin il y en a beaucoup beaucoup de M2F, mais il y en a d'autres aussi dans l'autre sens. Donc des personnes qui jouent le rôle de role model et qui permettent de montrer que en fait vivre en étant trans c'est possible. Et qui revendiquent haut et fort qu'ils sont trans, ça permet aussi à tous ceux qui se cachent, qui sont encore, voire éventuellement encore dans le questionnement, puisque c'est difficile de casser ce formatage qu'on a, et donc se remettre en question et se dire finalement ce que je ressens c'est quoi, et arriver à mettre les mots sur ce qu'on se ressent. Voilà. Donc ça a doublé entre deux études, donc même cette estimation-là peut être largement en dessous de la réalité. Parce voilà, que là, c'est ce que je voulais souligner.
Tu parles de 6%.
0,6%.
0,6%, pardon. Au Nouvelle-Zélande, c'est 2,7%.
Oui.
Au Canada, c'est presque 9%. Eric Schneller, qui est le porte-parole du ministère de la Santé au Luxembourg, annonce qu'en France, il y aurait 132 000 jeunes, je n'ai pas le pourcentage, 132 000 jeunes entre 17 et 25 ans. Donc on voit que pour l'instant, il est extrêmement difficile d'établir vraiment un chiffre de cette population, mais je pense que d'ici 2 ou 3 ans, on va pouvoir établir qu'on est à peu près 1% de la population. Et à partir de ce moment-là, 1% de la population, on pourra aller voir ces messieurs du gouvernement et leur dire, pitié, occupez-vous de nous un petit peu. Voilà.
Et ce qui est intéressant dans l'étude aussi, c'est qu'ils ont aussi regardé par tranche d'âge et que plus en fait on aborde les jeunes générations et plus ils se disent transgenres facilement, on va dire. Voilà. Ça veut dire qu'ils arrivent à passer outre ce formatage social et à s'affirmer. Et moi, j'ai vu plusieurs vidéos de jeunes, en fait, effectivement, plutôt aux États-Unis, Canada, qui vivent très bien leur transidentité à l'école primaire, au collège, naturellement, et ça se passe très très bien. Donc j'ai l'espoir que dans les jeunes générations, finalement, les parents soient intelligents et acceptent l'identité de leur enfant, et que l'entourage, que ce soit scolaire, amical et autres, le prennent aussi comme ça, en disant cette personne, elle se sent bien comme ça, laissons-la vivre comme ça. N'essayons pas de lui imposer un formatage, un masque pour sa vie.
Ça, c'est la question de la visibilité aussi, en fait. Le fait d'avoir, comme tu disais, des rôles modèles ou des personnes qui sont ouvertement trans de manière publique, ça montre en fait que ces personnes-là existent, et ça, pour les personnes aussi qui sont isolées, parce qu'on n'a pas dit, mais les personnes trans sont aussi très souvent isolées du fait de la rupture familiale, rupture amicale, de vivre peut-être dans un espace qui n'est pas une grande ville. Ça, c'est des personnes qui sont très isolées, et du coup, le fait d'avoir des personnes qui, justement, de manière publique, revendiquent le fait d'être trans, c'est un énorme soutien déjà de se dire ah mais je suis pas seul. Et tu parlais des jeunes générations qui se disent plus facilement transgenre aussi, mais ça, je pense que c'est un truc qu'on peut imputer à internet, et pour une fois internet aura eu un truc positif, c'est que du coup sur internet il y a énormément de personnes qui se retrouvent, en fait, qu'elles soient d'un pays différent, d'une région différente, ça permet de se retrouver, d'échanger des expériences, de s'entraider aussi. La communauté trans sur internet est très très active, ça permet d'échanger aussi juste du savoir communautaire sur les hormones, sur les chirurgiens, sur les psychiatres qui sont ok, sur comment aborder un entretien avec un psy, un endoc, comment faire son coming out à ses parents. L'entraide communautaire là-dessus est absolument primordiale et se passe beaucoup par internet, et je pense que ça, c'est aussi pour ça que les jeunes aujourd'hui disent plus facilement qu'ils sont trans, quoi, quand ils le sont, quoi.
On va passer à la conclusion, Laurent. Ouais.
Moi, je voudrais souligner plusieurs points. D'abord, je suis super content du débat, de ce que vous nous avez amené, la structure aussi, donc à la fois sur l'aspect de ce que vous avez ressenti et puis de ce qu'on a à faire dans le droit et comment on infléchit aussi les mentalités dans la société civile et à l'intérieur des milieux associatifs. Et puis, je voudrais qu'on souligne le travail, parce que quand on a préparé la table ronde, on s'est dit, oh là là, mais comment les deux dessinateurs vont-ils pouvoir illustrer la transphobie? Et puis, je suis super content parce qu'on a vu plein de dessins sur les trans qui étaient super à propos. Et ça, vous dites que c'est pas le plus simple, mais finalement, je crois qu'il y a de quoi. On n'en est pas loin d'écrire un livre parce que vous en avez fait plein, plein, plein. Donc
c'est
super.
C'est un sujet qu'on voulait aborder. Finalement, on n'a pas eu le temps, mais sur les représentations, comment nous on se voit, comment les autres nous voient, c'est un vrai sujet.
Et les dessins sont là, et finalement, c'est bien, quoi. C'est super. Donc bravo à vous deux. Merci.
Voilà. Ainsi se conclut notre émission d'aujourd'hui. Donc enregistrée le 9 décembre dernier au Centre LGBTI. dans le cadre donc de la journée de présentation à Lyon et de dédicace du livre « Les homophobes sont-ils des enculés ?». D'autres ont été faits au cours de cette journée, qui seront présentés à l'émission. Des sons qui vous permettront notamment de découvrir un peu plus le contenu de cet ouvrage donc humoristique, on l'aura compris, destiné à déconstruire un peu les préjugés homophobes et partant donc aussi transphobes, lesbophobes, etc. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une émission en direct cette fois-ci, au cours de laquelle je retrouverai ma très chère collaboratrice et animatrice de l'émission, Laurence, et toute l'équipe de Pluriel Gay. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente soirée. À la semaine prochaine.
Pluriel Gay.